Face à Zach Bonsecours, on a 4 points également. Monsieur Lioger.
Merci, monsieur le maire, chers collègues. Donc, vous avez lu les délibérations et sans doute déjà préparé les questions ou vos interventions. Donc, on va essayer d'aller assez rapidement. Le premier point, donc 09, c'est la ZAC Bonsecours et le bilan de la concertation préalable en vue de la création de la ZAC. Je vous rappelle, requalification des espaces publics, mettre en œuvre le PLH de l'agglomération, créer de nouveaux espaces publics. Dans ce cadre, donc, les modalités de la concertation vous sont expliquées et même détaillées. Vous l'aviez voté le 2 juillet dernier. Mise à disposition en mairie de quartier nouvelle ville d'un document, mise à disposition en mairie d'un registre d'observation, mise en place d'un espace dédié, organisation d'une réunion publique. Vous avez tous ces éléments, ça c'est pour le point 09. Le point 010, lui, il concerne la création elle-même et la délibération que nous vous demandons sur la création de la ZAC Bonsecours. Donc, il vous est rappelé la convention du 22 novembre 2012 qui propose effectivement de confier à l'EPFL le soin d'acquérir le site afin de définir aussi un projet urbain à plus grande échelle. Nous avions lancé un dialogue compétitif. Je vous rappelle que l'agence Atelier Lyon avait été retenue ainsi que le bureau d'études Iris, que le projet prévoit à 46 000 m² de surface de plancher et qu'il s'agissait de repenser la structure urbaine, de restructurer la circulation automobile, de redonner des espaces aux liaisons douces, de requalifier l'espace public et de promouvoir un aménagement durable. C'est le point suivant. C'est aussi un projet de délibération qui vous est proposé. Donc, le point 10, création de la ZAC Bonsecours. Le point 11, il s'agit d'une charte d'objectifs d'aménagement durable pour cette même ZAC. Rappeler les certifications qui sont demandées et la très haute exigence environnementale qu'on a payée d'une certaine manière, le maire l'a rappelé tout à l'heure avec l'UM une autre ZAC, mais là on va essayer d'être plus prudent. Il est tout à fait clair qu'aujourd'hui, les normes de construction amènent à une très grande qualité de construction et donc à une consommation d'énergie fossile très, très, très basse. Ce qui n'empêche que nous prévoyons aussi en même temps de requalifier les espaces publics, de mettre en œuvre le PLH de l'agglomération, je l'ai dit tout à l'heure dans cette charte, de créer de nouveaux espaces publics. Cette démarche dans laquelle évidemment nous nous inscrivons assurera l'intégration de la cohérence du quartier avec le tissu urbain, préservera les ressources naturelles et promouvera plutôt une vie sociale de proximité conforme aux dynamiques économiques. Vous avez cette charte qui est annexée à la délibération. Enfin, la quatrième délibération qui est la 12, c'est une convention de travaux entre la ville de Metz et l'EPFL. Elle concerne une délibération qu'on vous demande et qui est une très bonne nouvelle qu'on doit en partie à la pugnacité de monsieur le maire, à savoir que alors qu'avant nous payions 50% des travaux de l'EPFL, notamment de dépollution, maintenant l'EPFL, et on vous demande d'autoriser par cette délibération le fait que l'EPFL paiera 100% des démolitions et des dépollutions sur la ZAC, enfin sur cette future ZAC si vous la votez. Bonsecours, la motion est en conséquence.
Bien, alors, un certain nombre de personnes se sont inscrites. Monsieur Aldrin, pour une minute, s'il vous plaît.
Oui, merci Monsieur le maire. À deux reprises, le début de ce conseil, il a été fait référence à la citation de Martine Aubry, « Quand c'est fou, c'est qu'il y a un loup », nous permettrait de l'utiliser, selon le bon dicton de jamais 203, une troisième fois, parce que s'il y a bien un sujet sur lequel il y a un flou, c'est bien celui-ci. Et je voudrais revenir sur le conseil du mois précédent et ce qui avait été dit, et les informations qui sont ainsi données aujourd'hui, notamment sur le bilan prévisionnel de cette ZAC. Je rappelle que le mois dernier, outre le fait que le nombre de places de parking avait sensiblement évolué 3 fois en une semaine pour aboutir à 85 places, M. Lioger, premier adjoint, dans son explication, avait donné un budget prévisionnel, un bilan prévisionnel de cette ZAC, nous disant qu'elle serait équilibrée à hauteur de 15 900 000 euros. Il suffit de réécouter l'intervention du mois dernier. J'ai demandé que ce bilan prévisionnel ne soit fourni en commission des finances, ce qui a été le cas, et quelle ne fut pas ma surprise de voir que ce bilan prévisionnel, finalement, passe à 15 750 000. Par exemple, Lorsque M. Leleger nous disait le mois dernier que les frais de portage étaient de 1 million d'euros, il passe à 900 000. Les études qui étaient de 1 300 000 passent à 1 350 000. S'agissant des recettes, c'est encore plus troublant, les variations et les changements. Le mois dernier, il devait y avoir des recettes déjà réalisées de 800 000 euros qui ne figurent pas dans ce qui m'a été donné. Les premières cessions, ça correspond. La valeur, la valeur des places de parking restantes, effectivement, demeure. Et là, on nous fait apparaître une valorisation de la réserve foncière pour un équipement public de 650 000 qui n'était pas indiquée le mois dernier. Donc, ça donne le sentiment, en réalité, que ce document qui m'a été donné, c'est une manière de dire, au fond, on trouve un moyen de vous présenter une zone, un bilan prévisionnel et une ZAC équilibrée. C'est à tout le moins, je crois, au regard de l'importance du dossier, des variations, des chiffres, des millions, des centaines par-ci, des centaines par-là, un signe d'amateurisme dans ce dossier qui nous interpelle sincèrement.
Merci. Les amateurs vous remercient. On y va, Madame Rollet, allez-y.
Oui, Monsieur le maire. Donc, ce projet de l'ex-hôpital Bon Secours est maintenant lancé. Et la municipalité socialiste répète encore et toujours les mêmes erreurs en matière d'urbanisme. Saturation du marché immobilier, désordre architecturaux, engorgement de la circulation, charges financières pour la ville, ça vient d'être évoqué, calendrier irréaliste et promesses d'équipements publics qui ne seront pas tenues. Erreur en aggravant la saturation du marché de l'immobilier, eh bien, ça a été largement évoqué le mois dernier. Metz n'a pas la capacité d'absorber 400 logements neufs supplémentaires à Bon Secours. Erreur dans les choix architecturaux, que vient faire un ensemble d'immeubles ultramodernes de 7 étages au maximum au cœur d'un quartier qui ambitionne le classement UNESCO. C'est justement l'unité architecturale de la nouvelle ville qui est valorisée comme témoin historique exceptionnellement bien conservé. Et voilà que cet ensemble rare sera déparé et surmonté d'un artifice architectural, l'attique, le toit terrasse, habitable, ayant pour but de maximiser le profit. Dans un angle du programme immobilier subsistera la moitié du bâtiment historique, partiellement conservé et muré en attendant que son sort soit fixé. Et le risque est réel que cet édifice ancien soit déstabilisé par la démolition de la partie sacrifiée et les travaux d'ensemble. Nous demandons dès à présent que toutes les dispositions soient prises pour sa bonne conservation intérieure et extérieure. Erreur dans l'engorgement supplémentaire de la circulation. Le projet Bon Secours englobe une réorganisation de la circulation dans le quartier qui répond à l'idéologie habituelle de la municipalité sous prétexte de développer les modes doux, morts aux voitures, aux automobilistes. Pourtant, tout le monde ne peut pas prendre le bus ou le vélo et l'activité d'une ville, surtout telle que Metz, ne peut pas être dissociée complètement de l'automobile. La circulation est actuellement dense sur ces axes pénétrant au nord et au sud de cette ZAC. Mais qu'adviendra-t-il une fois la circulation réduite à une voie sur certaines artères, voire interdite par la piétonnisation? La circulation se reportera sur d'autres rues, la rue Charles-Pêtre, la rue Verlaine, passée à double sens, sur des axes qui sont déjà saturés eux aussi aux heures de pointe, comme le bord du canal, la rue Clovis, la rue Pasteur. Bouleverser les flux de circulation peut amener à des remèdes pires que le mal, comme on le voit dans d'autres quartiers. Et le bilan carbone n'est pas positif quand l'automobiliste emprunte des itinéraires alternatifs plus longs ou se retrouve bloqué dans des embouteillages. Erreur dans le plan de financement déficitaire du projet, donc cela vient d'être évoqué. Erreur dans les promesses qui ne seront pas respectées. Le calendrier ne sera pas tenu. Il y a un an et demi, on nous disait pour le programme immobilier de la rue du 20e Corps qu'il devait être achevé fin 2015. Ça n'est pas du tout le cas. Est-ce à dire que la conjoncture n'est pas si favorable ? Les habitants sont pressés de voir disparaître la friche hospitalière. Cela justifie-t-il de communiquer sur le calendrier qui sera encore moins respecté, comme c'est le cas depuis le début? Les équipements publics, eux, attendus par les habitants du quartier, sont annoncés en réunion de concertation qui ont eu lieu, ne sont ni financés ni planifiés. On risque d'attendre encore longtemps la mairie de quartier, l'école, les équipements sportifs nécessaires vu la densité scolaire, les espaces associatifs et de réunion, le centre médical de proximité, on a tout entendu, y compris avant les élections municipales. D'autant que le bâtiment ancien, qui devait héberger des projets utiles au quartier, est indiqué comme réserve foncière pour le moment.
Merci.
Et ben voilà, je vais en rester
merci
là pour
madame.
L'instant.
Madame Nicolas.
Une certaine torpeur.
Je vous surprends, oui. Madame, excusez-moi.
Absolument. Oui, juste sur la charte HQE, au-delà de cette charte, moi j'aimerais bien savoir ce qui est prévu en matière d'efficacité énergétique sur ces futures constructions. On parle souvent au sein de cette assemblée de projets ambitieux et d'innovation, et dans ce cadre, je trouve qu'il serait assez pertinent d'imposer aux futurs promoteurs de la réglementation RT20, qui va être obligatoire de toute façon à partir de 2020, dans 4 ans, et qui nécessite, par rapport à la RT12, que la performance énergétique soit ramenée à un niveau passif. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a quand même du retour sur tout ce qui est en RT12, et on sait très bien qu'on dépasse souvent de 20 à 30%, qu'on n'est pas aux 50 kWh par mètre carré. Donc demander aux promoteurs un effort, même si on n'arrive pas tout à fait au passif, mais dans 4 ans, ça sera obligatoire, on serait un peu précurseur, ça se fait déjà un peu dans certaines villes, mais ça serait pas mal d'y songer. Je vous remercie.
Merci, Madame Zimmermann. Merci, Monsieur Lebeau.
Monsieur le maire, chers collègues, sur ce dossier, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, parce que je rappellerai quand même qu'au départ, nous avions la vente pour 12,5 millions d'euros, plus d'espace à 80%, et de 137 places de stationnement. Suite à la commission de finances de la dernière fois, on est passé à 85 places, excusez-moi, et Richard Lieuger, lors du conseil municipal, a dit « Avec le glaive au dos, j'ai dû revoir les promoteurs et renégocier. » Nous avons fait un certain nombre de demandes de documents auprès des services. Nous n'avons eu aucune réponse. Aucune réponse. C'est-à-dire qu'on a demandé le détail des autres offres. Aucune. Sachant que je rappelle que sur ce dossier-là, d'après mes calculs, qui n'ont pas été dédits par la présentation du bilan, la ville va perdre 2,7 millions d'euros sur ce dossier. On perd 2,7 millions d'euros avec cette opération de vente à 12,5 millions d'euros, sachant que les places de stationnement sont valorisées à 17 000 euros. Je trouve que la négligence de ne pas répondre aux élus sur un dossier où on perd 2,7 millions d'euros, où on n'apporte pas des éléments probants à son opposition, du fait que en espace de 2 jours, alors qu'il y a eu une communication, une conférence de presse avec la ville et les promoteurs où on annonce 137 places de parking et ensuite, 2 jours plus tard, on ramène à 85, que lorsqu'on demande le détail des autres offres, on dit « circuler, il n'y a rien à voir », alors qu'en commission des finances, on dit « oui, il y en a d'autres », etc. Il y a un certain manque de communication et d'information qui sont troublants, pour le moins. Donc, j'aimerais avoir sur ce dossier-là la liste des offres exhaustives que l'on a reçues, les réponses, toutes les réponses qu'on a demandées et au conseil municipal et par mail et en commission des finances pour pouvoir se prononcer de manière éclairée. Le dernier point qui est quand même surprenant, c'est que ce que disait Jérémy Aldrin, c'est que tout est mouvant alors que tout était au départ ficelé. Donc, monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, nous aimerions croire que cette affaire est une bonne affaire. J'aimerais vous croire, mais aujourd'hui, je suis comme saint Thomas et saint Thomas a trouvé 2,7 millions de pertes.
Merci. Madame Isler-Béguin.
Oui, merci, monsieur le maire. Pour ma part, je voudrais vraiment saluer le travail assez remarquable sur ce quartier, parce que, bon, c'est vrai qu'on était... C'était une interrogation que de ce qui allait sortir de ce projet, mais bon, c'est, à mon avis, ce que je peux en voir d'après les différents rapports. C'est vraiment un bon projet, et surtout, ce qu'il faut saluer, c'est la concertation avec les populations. Je crois que c'est vraiment très important, et si vous avez pu lire les relevés des décisions, malheureusement, je n'ai pas pu participer à une soirée publique, mais c'est vraiment très intéressant. Et on s'aperçoit aussi de l'intérêt des populations et notamment les questionnements par rapport aux déplacements. Et là, effectivement, j'aurais peut-être répondre au slogan de « mort aux voitures ». Je crois que ce n'est pas ça ce qui est proposé, mais je trouve que c'est vraiment important de travailler sur les déplacements et les futurs déplacements et la mobilité dans ce quartier. Et moi, je pense que peut-être qu'on pourrait aller sur ce secteur-là vers ce qu'on appelle une zone low carbone, hein, à faible émission. Pourquoi pas ? Je pense qu'on est en très bonne voie par rapport à ça. Et c'est vrai que autant les services d'urbanisme et de circulation de la ville et les services de mobilité de Metz Métropole travaillent actuellement justement sur la desserte et pour intensifier le transport en commun, justement pour permettre d'offrir à ces futurs locataires la possibilité de se rendre ailleurs, soit à leur travail, soit en centre-ville, justement avec des transports en commun. Et je pense qu'on peut trouver des solutions. On a déjà quelques pistes qui sont vraiment très intéressantes à ce niveau-là. Voilà, je voulais surtout intervenir sur les déplacements, sinon évidemment au niveau des bâtiments HQE, je crois qu'il faut le dire, c'est très important pour des logements, parce qu'effectivement, ben, ça permet de réduire l'empreinte écologique, et surtout, il ne faut pas oublier qu'on reste, je crois, 80% de notre temps à l'intérieur, et donc avoir des bâtiments haute qualité environnementale, ça va aussi dans le sens de notre bien-être, puisque la qualité de l'air est améliorée dans ces bâtiments. Je vous remercie.
Merci. Monsieur Cambianica.
Monsieur le maire, je remets mon temps au pot.
Eh bien, merci beaucoup, monsieur Cambianica. Vous êtes parfait.
Monsieur Lieuger, pour répondre. Je rassemble deux points.
Alors,
pas sur le côté amateur, ce n'est pas la peine.
J'allais dire en tant qu'amateur. Ça me semble un petit peu compliqué.
Les amateurs ne sont pas de la partie, donc voilà, vous ne répondez pas sur l'amateurisme.
D'autant que vous avez vu que la ZAC de l'amphithéâtre est un exemple type d'amateurisme, je dirais primaire. et que, alors, de manière générale, d'ailleurs, je crois qu'on peut faire la même réponse à M. Aldrin et à M. Lebeau, c'est que, en fait, ils sont hors sujet. Aujourd'hui, on n'est pas en train de discuter de budget. On va en discuter. On vous proposera un budget de la ZAC. Et là, on pourra de nouveau avoir pour la troisième fois le même débat que vous voulez engager. Donc, ce budget vous sera proposé en temps voulu. On a voulu aller vite. Et il y a un certain nombre de corrections qui ont été faites, peut-être de manière un peu cavalière, je veux bien l'admettre, entre la Commission des finances et la délibération, mais je dirais qu'elles vont dans le bon sens, puisqu'elles vont dans le sens de l'économie, et que, comme je le disais tout à l'heure sur la question de démolition et le fait que, notamment, le PFL, et par exemple là, vous ne l'avez pas noté, mais c'était une économie que nous allons réaliser, va prendre à sa charge 100% de la démolition. C'est toujours marrant, vous voyez toujours ce qui est vraiment extrêmement mauvais à votre sens, mais vous ne soulignez jamais le positif. Je ferai deux réponses. Madame Grollet va vraiment dans le vif du sujet, je dirais, mais je lui conseillerais plutôt de candidater à la place libre, je crois, de Madame Soleil, parce que vous êtes absolument extraordinaire. Vous êtes capable de nous dire qu'il va y avoir des immeubles ultra-modernes, alors que pour l'instant, il n'y a pas eu le début de l'esquisse d'une architecture. Alors, je ne sais pas d'où vous sortez cela, ou alors vous avez effectivement des dons...
Laissez répondre, Monsieur Lieuger, s'il vous plaît.
Des dons de divination. Ensuite, je dirais, de manière un petit peu plus acerbe, si vous me permettez, là, j'étais un peu ironique, que je souhaite vraiment que le candidat de la région que vous soutenez ne soit pas élu. Parce qu'à travers votre intervention, je crois que nous aurions la plus belle régression économique que la France a jamais connue et que la Lorraine et le Grand Est aient jamais connue. Parce que dire, comme vous dites, que Metz ne peut pas absorber, ne peut pas construire et tout ça, ne peut pas être attractif, franchement, Vous êtes à un niveau qui nous fait vraiment craindre, effectivement, que le Front National ne prenne des régions et une grande régression économique nous attend si, par malheur, vous arriviez à gagner certaines régions.
Chacun
ensuite,
son tour, s'il vous plaît.
Sur les questions environnementales, merci à Madame Isler-Béguin de ce qu'elle a bien voulu dire.
Et à Madame Nicolas.
Et à Madame Nicolas. On regardera effectivement, on essaiera de faire en sorte qu'il y ait la qualité environnementale la plus optimale. Simplement, vous le savez aussi, que c'est souvent, et alors là, pour le coup, au détriment de la réalité économique. C'est-à-dire que si on veut qu'un appartement soit vendable, plus on rajoute effectivement de principes, je dirais, environnementaux, plus on a plus à la fin, à 4 000 ou 4 500 euros du mètre carré, que des bobos qui peuvent se payer les appartements qu'on est en train de faire. Donc, je partage avec vous, nous partageons, je pense, ce désir d'une grande qualité environnementale, de là aller jusqu'à des bâtiments passifs. Alors, peut-être qu'en 2020, ces qualités seront exigées, je me demande, mais peut-être qu'on fera des progrès extrêmement forts. À ce moment-là, l'UM ne pourra plus vendre ni d'électricité ni de chauffage. Donc, on essaiera effectivement de faire en sorte que tout ça soit optimal. Je dirais, à part votre intervention et peut-être d'une certaine manière celle du Front National, je crois que les autres interventions étant complètement hors sujet, monsieur le maire, vous me permettrez de ne pas y répondre.
Très bien, écoutez, bien volontiers. Alors, je vais mettre aux voix. Donc, il y a plusieurs... Alors, allez-y, madame, vous l'expliquez votre vote. Je vous en prie.
Oui, juste pour dire que nous serons contre cette ZAC, et on verra plus tard comment elle se développe et à quelle vitesse, et avec quelle architecture, connaissant ce qui est en cours de réalisation déjà à Metz, et puis avec les images qu'on a sous les yeux également, quand même. Je ne suis pas madame Soleil. Et en revanche, nous sommes pour, évidemment, l'attractivité de Metz, et je vous propose encore une fois, en tant que candidat sur une autre liste aux élections régionales, de convaincre vos colistiers de toute la grande région de voter pour Metz, capitale de la grande région. Est-ce que le capitale politique de la grande région...
Excusez-moi, mais ce n'est pas une explication de vote, ça.
Vous venez de parler de notre candidat au régional, donc on est dans le sujet encore. Et est-ce que donc tous les colistiers de Jean-Pierre Masseret s'engagent à ce que Metz soit la capitale et le siège du conseil régional? De même, même question pour Monsieur Thiel, Madame Audouy et tous les colistiers... des deux Messins, est-ce que toute leur liste s'engage à ce que Metz soit capitale politique de la grande région? Eh bien, c'est très bien, mais auquel cas, ça, ce sera un acte concret donc pour la visibilité et l'attractivité de notre ville, qui, pour le moment, perd des habitants. On ne peut pas dire qu'actuellement, ce soit la grandiose dans notre ville, comme dans notre région, comme dans notre pays.
Merci. Alors donc, vous votez contre? Alors, deuxième explication.
Monsieur le maire, n'ayant pas eu les informations demandées depuis deux conseils, depuis répétées, re-répétées, je ne peux pas prendre part au vote.
Vous ne prenez pas part au vote. Parfait. Merci. Alors, qui ne prend pas part au vote? Voilà, un. Qui est contre?
Quatre.
Quatre, et les autres sont pour. Alors, ça, c'était pour le point numéro 9. Le point numéro 10, création d'un acte de bon secours. Qui ne prend pas part au vote? Un. Qui est contre? 4. Les autres sont pour. Merci. Le point numéro 10, charte d'objectifs d'aménagement durable, ZAC Bon Secours. Qui ne prend pas part au vote? 1. Qui est contre? 4. Les autres sont pour. Merci. Et il y a le point numéro 11 que j'avais oublié. Il se cache là dans l'épaisseur. Qui ne prend pas part au vote? Merci, monsieur Lebeau. Qui est contre? 4. Les autres sont pour. Je vous remercie. Tous ces points sont adoptés.